Cette semaine, dans le balado, on vit une relation houleuse avec notre père, on renoue avec notre ex et on monte un concerto. Bienvenue à Mercenaires Balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut! Mais peut-être que pour renouer avec son ex, dépendamment de ce qu'on a fait, ça prendrait un concerto. Là.
Peut-être.
Un grand gesture, un move, comment dire, un gesture, une action,
action romantique.
Incroyablement, ouais, c'est ça. Très... justement, télévisuel et cinématographique, là, des chandelles partout, des pétales de roses, un quatuor à cordes. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans Materialist? Ah, on en discute
oui,
dans quelques
oui,
instants.
Oui, oui, parce que des fois, les bandes annonces peuvent être trompeuses, disons juste ça comme ça. Avant de parler quand même de bonnes sorties cette semaine.
Oui, oui,
quatre gros films.
L'été, des grosses sorties, oui, c'est des bons
puis,
films.
Oui, puis pour des publics différents aussi, ce qui est bien le fun. Petit tour d'horizon d'actualité, quand même assez tranquille, mais il y a le festival d'animation Annecy en France en ce moment qui bat son plein.
Ce qu'on peut appeler le Cannes de l'animation.
Oui, vraiment. D'ailleurs, plusieurs des films ont leur démarrage de leur carrière internationale là-bas, dont c'était le cas avec Flo,
oui,
qui avait créé un grand buzz, et puis ben, on a vu que finalement, c'était un raz-de-marée.
Je pense qu'il y a un film québécois qui est... Oui, raz-de-marée. Je pense qu'il y a un film québécois qui est là, d'animation...
Ben, je sais qu'un court-métrage, okay. Si je ne me trompe pas, d'un ami de Québec, Francis Desharnais.
Ah oui, OK.
Oui, je crois que oui, qui est bédéiste, mais qui fait aussi de l'animation.
C'est lui qui avait gagné le prix... comment on appelle ça, le prix littéraire de la ville de Québec,
oui,
entre
oui.
autres pour La Petite Russie, qui parlait de la coop de bûcherons en Abitibi au début des années 1900.
Oui, très bonne BD. Donc, Disney est très présent et en a profité pour faire quelques annonces.
Okay.
On a annoncé le film pour l'été 2027.
Dans deux étés,
mais qui a suscité un grand buzz, ça a l'air, au niveau visuel, parce que Pixar vont changer un peu leur technique.
Création originale.
Oui, okay. Création originale, donc, qui s'appelle Gatto, qui veut dire chat, effectivement, en italien.
Fait que là,
donc,
c'est ça. À Annecy, on parle de films de chat. Très important.
Ben, là, je pense que ça devient la mode, peut-être, mais c'est de l'équipe qui a fait Luca,
okay.
qui est derrière le film. Et on a un visuel qui s'apparente plus à la peinture à la main que la méthode vraiment 3D de Pixar habituelle.
Okay.
Donc, esthétiquement, on s'en va ailleurs. Donc, ça a l'air que la foule a vraiment bien réagi suite à ça.
Ouais, c'est ça. Ils appellent ça, dans tous les gros marchés de films comme ça, chaque fois qu'il y a un festival, il y a de la vente de films, il y a des affaires. Tu sais, comme Cannes, on se souvient de genre la semaine où il y a des vedettes sur le tapis rouge, mais il y a avant le marché des acheteurs, qui est comme une semaine avant. Puis là-dedans, il y a plein de ce qu'on appelle des whips. Work in progress. Fait que probablement le film dont tu fais référence, Gatto, ça devait être ça. Fait que
c'est du monde, des
producteurs qui sont là. Voici des images qu'on a. C'est des sketchs. Il n'y a rien d'animé encore. C'est un pitch qu'ils font pour commencer à vendre leur salade.
Ben, tout à fait. À créer
l'engouement.
L'engouement, effectivement. Sinon, on a annoncé qu'il y aura une suite. Je vais dire tout de suite à Incredibles 3, Les Incroyables 3.
Mm-hmm.
Ça avait été déjà annoncé, mais on n'avait pas plus d'informations à ce moment-là. On a confirmé que Brad Bird va de nouveau écrire le scénario, mais il ne sera pas le réalisateur. Donc,
okay.
Il avait fait les deux premiers Incroyables. Cette fois-ci, c'est Peter Son qui va prendre la relève, qui avait fait Elemental l'année dernière.
Okay.
Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est le protégé, en fait, de Brad Bird. Il travaille avec lui depuis les débuts de Brad Bird en animation. Puis il fait aussi des voix. Ce qui est très drôle, Peter Sand, donc fait la voix d'Emile dans Ratatouille, puis Sox dans Lightyear.
Ah, OK.
Fait qu'il y a comme deux cordes à son arc.
Des gigs différentes.
Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai bien hâte de voir. Moi, c'est
ça
films
rappelle
de
un
Pixar
peu,
que j'apprécie beaucoup.
Chris Sanders du côté de DreamWorks, puis de Disney qui fait une couple d'affaires aussi, dont la voix de Stitch.
Ouais, ouais. Fait que je sais pas si ça a juste commencé par des gags comme ça dans les bureaux, comme c'était le cas de Chris Sanders, puis qu'on dit à Peterson, hey, finalement, viens enregistrer une voix.
Une voix de chat robot.
Ouais, donc Incroyable 3, donc à suivre, mais une autre suite bien aimée d'une franchise de Pixar, dont on a confirmé finalement la date de sortie, c'est le cinquième volet d'Histoire de jouets, donc Toy Story 5. 19 juin 2026, fait que c'est quand même
l'été prochain. Ça va être What at the zoo, parce que Moana en prise de vue réelle sort l'an prochain.
Ouais.
En mai, je pense.
C'est-tu en mai, celui-là?
Ça
serait du
à
sens.
À moins qu'il soit en juillet, là, mais c'est sûr
ben,
que
vont...
même s'il y a un Disney puis un Pixar, ils ne sont pas plus fous qu'un autre. Là, ils se donnent un 4-5 semaines.
C'est ça.
Comme avec.
Stitch et Elio.
Stitch puis Elio qui s'en vient, ouais. Exactement. Là,
donc, potentiellement un autre gros été pour Disney.
Pour les familles.
C'est sûr qu'ils vont vendre des Buzz et des Woody en masse, ouais. Comme c'est le cas à chaque film.
Des figurines de The Rock.
Et ce qui est fun, c'est que là, on nous a donné un petit peu plus de précision sur la prémisse du film. Et moi, je l'aime, honnêtement. Donc, on va retrouver la jeune Bonnie qui était dans Toy Story 4, qui avait hérité des jouets d'Andy. Andy lui avait donné sa caisse de jouets. Maintenant, elle a 8 ans, donc elle est un petit peu plus vieille. Et elle va recevoir...
Les vend sur eBay, oui, parce qu'ils ont de la valeur. Là.
Elle va les revendre, ça serait drôle, au personnage du 2, là,
Il y avait un collectionneur. Oui, exact.
Donc, non, mais ça va être très d'actualité.
T'as pas la boîte d'origine, non. Oui, j'ai juste la figurine. Elle est un peu abîmée. Finalement, je t'adore la 1000.
Elle va recevoir une tablette électronique.
Oh là là,
où elle va jouer avec des jeux. Oui, donc ça va devenir le nouvel ennemi des jouets.
Que la tablette va-t-elle être animée? Parce qu'à partir de ce moment-là, tu sais, s'il n'est pas inerte, mais que la nuit ou quand il n'y a pas de regard, là, tous les ordinateurs, est-ce que les micro-ondes peuvent s'animer?
Écoute, on verra bien comment tout ça va se dérouler.
Dans les babalous, là, le frigidaire parle, puis
non, la vaisselle... Plus la tablette avec les jeux, quelque chose comme ça.
Les télés vont s'animer. Là, il va y avoir des scènes de Super Nintendo qu'il faut qu'ils souffrent d'un cassette.
Donc, Toy Story 5 pour les fans, dont je suis, 19 juin 2026. Et sinon, ben, pour les nostalgiques comme moi des années 80, on a officiellement
confirmé. C'est ça. Si vous êtes nouveau dans le balado, là,
ça fait quelques fois
c'est
qu'on
un
en
fait
parle.
Connu. Là,
ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était à l'étape longtemps.
Est-ce que tu me parles de ton T-shirt?
Oui, bien sûr. J'ai
parfait.
Même mis mon T-shirt pour l'occasion. Évidemment, on a confirmé que Spaceballs 2 irait bel et bien de l'avant chez MGM pour une sortie pour 2027. On n'a pas plus de précision qu'en 2027, mais c'est Mel Brooks lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux avec une petite bande-annonce aussi, un petit teaser très drôle, très comique.
Oui, c'est ça, le fameux texte défilant, puis là, de Star Wars, on met des jokes là-dessus sur tout ce qui s'est passé depuis le premier Spaceballs.
Ouais, et toutes les nombreuses franchises
qui
existent.
Oui, c'est ça, exact. Tout ce qui s'est passé côté franchise de cinéma.
C'est très, très drôle. Donc, ça met la table. On sait que c'est Josh Gad qui est derrière ce projet-là. Donc, lui qui fait la voix, entre autres, d'Olaf dans Frozen,
ouais.
Qui est, je pense, un très grand fan. Donc, il va être co-scénariste, va jouer dedans. Puis là, au début, c'était pas confirmé qu'il revenait. Mel Brooks lui a confirmé qu'il va reprendre son rôle de Yogurt. Mais là, aujourd'hui, ça a sorti que probablement que tout le cast original serait de retour. Donc, Bill Pullman, Daphne Zuniga et oui, même Rick Moranis sortirait de sa retraite pour rejouer dans le film, pour jouer okay. Dark Helmet. Ce serait quand même un très gros coup. Un bon coup publicitaire aussi. Mais l'autre bon coup publicitaire, donc il va y avoir ce qu'on comprend, c'est que les personnages classiques vont avoir plus de second rôle. Donc,
ouais.
Lone Star puis la princesse.
Un soft reboot un peu, là.
Mais de nouveaux personnages vont être de l'avant, dont un par Kiki Palmer. Qu'on ne okay. connaît pas encore, qui était dans Nope, le dernier oui. Jordan Peele. Mais, coup de maître, Louis Pullman va jouer le fils de Lone Star.
Donc, Bill Pullman.
Ça, je trouve
c'est cool.
Quand même très, très drôle.
Puis là, tu penses, comme John Candy n'est plus...
Josh Gad a le physique pour jouer Barf. Donc,
le faux Wookiee.
Ouais,
un peu,
c'est ça.
Chewbacca,
un peu. Alors, à suivre, 2027. Mais moi, j'ai bien hâte, parce que j'avoue que je suis un des grands fans du premier Spaceballs. Je me rappelle quand je l'avais vu au cinéma encore, dès l'ouverture avec le vaisseau qui s'éternise où on parodiait Star Wars. Là. Écoute,
ne m'en veux pas, mais j'ai jamais vu ça.
Écoute, je te pardonne.
Puis
et je suis pas sûr que t'aimerais ça peut-être aujourd'hui. Mais...
Non, tu sais que je suis trop cynique. J'ai de la misère à réécouter les vieux trucs des fois. Je sais pas, j'étais un peu brisé ces temps-ci. Mais avec le Naked Gun aussi qui revient cet été, on surfe dans cette nostalgie de comédie au cinéma. On disait il y a quelques années que les grandes comédies de studio étaient mortes.
Mais surtout les parodies, qui est un genre qui est mort quand même depuis plusieurs années.
Ben, que je pense que l'abondance sens. Il y a eu, moi, j'ai connu les films de peur,
ouais.
mais là, ils ont étiré la sauce, sont tombés dans les autres, là, les deux frères là, qui font les epic date movies, puis toutes ces affaires-là, que c'était des straight to DVD movies.
Et c'était rarement très bon.
Ouais, ouais, c'était tout le temps une scène de dialogue nulle avec genre quelqu'un qui reçoit de quoi dans fourche en background. Là. C'était tout le temps ça. Là.
Ouais, donc, mais d'ailleurs, Scary Movie aussi revient. Fait que, ouais. Donc, on rebaigne dans cette ère.
J'y crois moins à ça.
Ouais, moi aussi. donc, voilà pour les fans de Spaceballs. Et ben, ça fait le tour pour les nouvelles. Sinon, bande-annonce, ben là, on a eu droit à une vraie bande-annonce pour le nouveau Ari Aster Eddington.
Ouais, qui sort le 18 juillet. Ouais. Qui a joué à Cannes, je ne sais plus si c'était en compétition, hors compétition, je ne sais plus.
Moi non plus, je ne me
rappelle pas. Je pense qu'il est en compé, en tout cas. Ouais, ces fameux affrontements, dans le fond, entre, dans très moderne, entre un shérif puis le maire de la ville. Affrontement sur quoi? Pas au Cold de 45, mais bien dans la pandémie. C'est un film qui se passe littéralement en 2020. Les mesures sanitaires, on est au Texas, je pense, en plus, ou du sud-américain.
En tout cas, oui, ça fait...
Fait que ceux qui sont comme la distanciation, le masque, versus les autres qui sont comme « Non, non, on vit notre vie, puis c'est tout.
Ouais. » Fait que, puis en tour de ça, il y a d'avoir une espèce de culte religieux aussi, là, où le leader est joué par Austin Butler.
Oui, c'est vrai. Puis là, l'espèce de troisième acte de la bande-annonce vire Coco Banane avec des mitraillettes puis des affaires de même.
Ça dégénère.
Fait que j'étais très curieux de voir ce film-là. Aussi le poster, que c'est comme des buffs qui tombent dans le vide. Là, quand les buffalo ils voient mal, ben, ils ont une très mauvaise vision. Puis ils tombent au bout d'un...
Puis le troupeau suit.
Ouais,
fait
c'est
que,
ça.
Ouais, ouais. Fait que, je pense que ça va être un film très politique.
Ouais, politique et polarisant.
Oui, je pense que oui.
Puis on discutait hors micro. J'espère que les gens vont être au rendez-vous parce que c'est la force et la faiblesse. Ari Aster a commencé avec des films d'horreur très polarisants dans le sens que des gens aiment ou adorent Midsommar ou même chose pour...
Héréditaire,
c'est ça. Fait que souvent, quand tu es dans le culte de l'horreur, tu gagnes des fans qui te suivent comme les frères Filippino puis des choses comme ça. Mais là, le fait qu'il ait pris une tangente différente, il reste un peu dans le weird, dans le non-traditionnel, mais il n'est plus dans l'horreur. Je sais pas si ça lui nuit. Au point de vue box-office, là, que des gens arrêtent de le suivre, parce que ben, là, il fait plus ce pourquoi je l'aimais.
Effectivement, ça va être à découvrir.
J'espère qu'il va gagner un nouveau public. On est peut-être plus dans la même tangente un peu que Yorgos Lanthimos, là, dans cette comédie noire, ce rire de la stupidité humaine un peu, là, jouer avec ces codes-là. Fait que moi, j'ai hâte de voir. Je suis très curieux.
Oui, moi aussi, très curieux. Peut-être pas un film d'été, fait que c'est quand même un peu drôle.
Non, contre-programmation.
Probablement, oui, on essaie d'aller chercher.
Puis, tu sais, c'est crime Joaquin Phoenix puis Pedro Pascal. Là, Pedro Pascal, cette semaine, matérialiste. 18 juillet dans Eddington, 25 juillet dans
Fantastic Four.
Ouais, ouais. Plus toute Last of Us qu'on a vu, fait qu'il est sur le bord de se brûler, là. Mais il y a encore la sympathie du public et tout. Là.
Mais ça commence.
Ben, des fois, c'est juste une conjonction malgré toi. Je me souviens, je sais pas si je me répète, mais il y a des années, ça avait fait ça avec Jude Law, puis ça lui a nuit d'avoir pendant 3 ans, tu tournes 6 films, puis ils sortent tous dans la même année, finalement. Puis le monde devient cœuré, puis ça baisse ta valeur à ce moment-là.
Au moins, c'est pas 3 films de grands studios. Fait que, tu sais, c'est pas le même public nécessairement qui va aller voir tous ces films-là.
Exactement, oui.
Mais c'est quand même beaucoup d'exposure, non? C'est en plus de la télé aussi, là, quand même, là, parce qu'il est dans The Last of Us, puis tout ça. Fait que... Bref, il chompe pas.
Ouais, c'est ça. Mais peut-être que lui-même va se dire, oh, je serais dû pour une petite pause, là. T'sais, surtout que sa carrière a comme...
Parti sur le tard.
Ouais,
quand
c'est
même,
ça. Fait que peut-être qu'il a voulu s'assurer de bien s'ancrer là, pas capable de rien refuser, puis il a pas fait de mauvais projets jusqu'à présent. Fait que là, peut-être que son gérant va lui dire aussi on va sortir un petit 6 mois, là, prendre des vacances, puis après, on va te remettre en vedette.
Donc, à suivre pour Eddington le 18 juillet. Alors, allons-y avec les sorties de la semaine et on va débuter avec le plus gros morceau, film familial. Je pense qu'il va frapper un peu la nostalgie, peut-être pas aussi lointaine que Lilo et Stitch, mais quand même, le premier film remonte à 2010. Fait qu'il y a eu le temps de... Ceux qui ont découvert ça ont peut-être maintenant de jeunes enfants.
Je pense que c'est l'objectif quand
ben
on fait
oui,
ça.
Ben oui, c'est ça. How to Train Your Dragon de Dean DeBlois.
Oui, tout simplement, Dragon au Québec, Dragon au pluriel. C'était donc une franchise de films d'animation qui, eux, viennent d'un roman, je ne sais plus...
C'est anglais, oui, Cressida Cowell.
C'est ça, qui n'est pas tout à fait le même titre, hein. C'est pas How to Train Your Dragon, c'est...
Comment adresser votre dragon.
Mais, c'est ça. Puis en français, il s'appelait Comment adresser un dragon, je pense.
Ouais,
c'est ça.
Le roman, oui.
Et non pas juste dragon.
Ouais.
Mais on avait comme ajouter une histoire différente un peu autour de ça. On est sur l'île de Burk. On suit des Vikings. Donc, depuis des générations, c'est cette gang de Vikings-là s'affronte avec les dragons qui viennent la nuit voler leur bétail, brûler la place. Puis eux, ils se font un devoir de tuer tous les dragons, anéantir de la terre. Sauf qu'on va suivre Hiccup, ou Harold en français, qui lui est le fils du... pas du maire, mais du chef du village. Et il est bien différent, lui, plus un cérébral, plus peureux. Alors, il veut pas du tout faire ça. Et par une suite d'événements, va se retrouver en lien avec un dragon qui ne parle pas, qui va finalement se rendre compte qu'ils sont pas si méchants que ça, qu'il faut juste les apprivoiser, un peu comme des animaux, puis qu'ils peuvent bien cohabiter. Mais il va devoir faire croire ça, convaincre le village qui, eux, cherchent le fameux nid des dragons pour anéantir tous les dragons.
Et au-delà de ça, ça va être le dragon le plus dangereux, quasi mythique, que personne n'a jamais vu.
Oui, parce qu'il est trop rapide, on ne le voit pas. Le Nightwing, c'est ça?
Night Fury.
Night Fury, la furie nocturne. Voilà, fait qu'une histoire d'affirmation de soi, de tolérance, de respect de la nature, de cohabitation, des relations père-fils, parent-enfant, mais père-fils dans ce cas-là.
Ouais, donc trilogie originale, trois films. J'imagine, comme moi, tu n'as jamais vu les films d'animation.
J'ai vu le premier, mais genre en 2010. Ouais. Ça fait très longtemps. Peut-être le deuxième, pas certain, mais le trois, je sais que non.
Moi,
je me souviens que c'était... Ben, un des éléments intéressants, c'était Jason Baruchel qui faisait la voix de Hiccup,
ouais,
et Gerard Butler qui faisait la voix de son père.
Mm-hmm.
Et là, ben... Baruchel est beaucoup trop vieux pour rejouer un adolescent, mais Butler a pile le bon âge pour faire le chef du village. Alors, c'est lui qui reprend son propre rôle, un peu comme avec le Moana qui est à venir de Rock qui va rejouer Maui.
Tout à fait.
Fait que les gros gars costauds peuvent continuer à jouer des gros gars costauds.
Ouais, absolument. Donc, sous maquillage comme ça et costume, ça passe très bien.
Oui,
voilà. Mais j'allais dire que moi aussi, je suis passé un peu à côté de ce phénomène-là. Pourtant, mon garçon, lui, a lu les romans.
Ah oui, OK.
Au primaire, il avait vraiment trippé parce que les romans datent du début des années 2000, 2002-2003. Puis avec ma fille, je ne sais pas pourquoi, finalement, ça n'a jamais donné, ou peut-être qu'elle les a vus avec des amis et tout ça. Fait que j'étais quand même curieux de voir ça. Il faut dire aussi que Dean DeBlois, est un Québécois anglophone, vient de la région d'Elmer, donc quand même, j'ai quand même une fierté de souligner
c'est ça. C'est
quand
pas de
même
Montréal,
cool.
C'est un Gatinois.
Vraiment, okay. de l'Outaouais, qui a fait son chemin dans l'animation, donc avait co-réalisé Lilo and Stitch, qui était son premier film. Également, ben, en fait, c'était l'équipe, lui et Chris Anders, qui avait co-réalisé le premier Dragon aussi. Et la raison pourquoi que finalement on lui a offert cette version live-là, j'ai lu une entrevue avec lui il y a quelques jours, c'est que finalement, on lui a offert tout simplement. Il disait, contrairement à Disney, où ils m'en ont jamais parlé, il dit là, dès qu'il y a une idée de faire une version en prise de vue réelle de Dragon, c'est Universal, le distributeur qui...
De DreamWorks, dans le fond.
Ouais, DreamWorks, c'est ça. Mais qui ont, c'est Universal qui ont la licence. Donc, qui l'ont approché, demandé s'il était intéressé. Puis, évidemment, lui avait toujours cette ambition-là de faire un vrai film, entre guillemets. Il a accepté, mais avec la condition qu'il y avait un contrôle total sur les idées créatrices du film. Donc, qu'en est-il pour How to Train Your Dragon? C'est sûr, pour nous, en tout cas, j'imagine que tu te souvenais très peu de l'original, fait que... J'imagine
Je me souviens des grandes lignes de ce qui allait se passer et tout. Là. Parce que, tu sais, le dragon avec lequel il se lie d'amitié, il s'appelle en anglais Toothless, donc un peu sans dents, mais il est traduit par Croque-mou. Puis c'était quelque chose de très fort dans la culture populaire. Là. C'est ça, tu sais, il est cute. Un dragon qui est cute, qui est attachant, qui agit un peu comme un chat, quasiment, ou un jeune chien, tu sais. Fait que sans être trop cartoonesque, mettons, même si c'est des comic books, mais il y a de quoi d'intéressant. C'était comme des films d'animation, c'est ça, qui infantilise pas, si je peux dire. Puis, je sais pas si on l'a mentionné, mais c'est ça, c'est des studios de DreamWorks, fait qu'on n'est pas dans le Disney ici. Puis c'est la première adaptation prise de vue réelle que DreamWorks fait. Fait qu'alors que Disney a quand même saturé le marché, puis eux-mêmes, tu sais, Lilo et Stitch, c'est un gros succès, mais Blanche-Neige, ça s'est planté, puis Dumbo aussi, puis ils ont tiré la plug sur plusieurs projets en disant, là, on pourra pas toutes les faire. Fait que même en production, là, ils en ont retiré beaucoup. Mais fait que c'est un peu le défi. C'est à chaque fois qu'on se dit, c'est est-ce qu'il y a un plus-value? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est intéressant? Puis je pense qu'ici, le film est vraiment réussi. Mm-hmm. Si toi qui n'as jamais vu le premier, ben ça semble pas être une copie ou juste une raison mercantile de le faire. Évidemment, quand ils donnent l'aval, c'est parce qu'ils sentent que ça va être rentable financièrement puis ça va relancer la franchise et tout. Mais je pense que Dean, quand il a... Québécois, Dean, il l'a fait pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Les bonnes raisons, c'est pas juste un chèque de 10 millions. C'est comme, j'ai envie de faire ce film-là. J'ai toujours aimé cet univers-là. J'adore ça. J'adore ces personnages-là. Mm-hmm. Je crois que ça va plaire aux gens comme les Harry Potter ont plu avec ces créatures-là fantastiques ou le Game of Thrones, pas très enfant, mais... On est des adultes, puis je ne l'ai pas écouté en disant « Ah, ça, c'est un film pour enfants. »
Non, 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 effectivement.
Il s'écoute super bien, même que, alors que l'animé pouvait commencer comme la plupart des films d'animation à, mettons, 4-5 ans, ben là, on est peut-être plus dans le 7-8, parce que, tu sais, c'est un peu sombre par moment, les dragons peuvent faire peur. J'écoutais une entrevue avec Dean DeBlois dans un autre podcast anglophone. Puis il racontait que là, c'est bizarre parce que comme ils ont commencé par un livre où c'est pas imagé, c'était juste des romans, il n'y a pas d'image.
Tout à fait.
Fait que là, on a créé des dragons en forme animée, mais là, on veut les créer en forme réelle. Fait que c'est l'inverse. Faut comme on part de la version adoucie pour en faire une version qui est plus sérieuse. Mais il dit, dans le cas de Toothless, donc de Croque-Mou, ben on a fait ça, mais amené, il y avait un traitement trop aride pour Croque-Mou. Mmh. Fait que là, il dit, lui, il a fallu le remettre un petit peu cartoon, garder les gros yeux, garder son visage très rond, très doux, pour qu'on comprenne qu'il faut pas qu'il y ait un look méchant, sérieux, ouais. Mais qui reste amical. Fait que c'est le seul qui fait exception. Ben, pas le seul. Il y en a qui ont... toutes sortes de dragons, fait qu'il y en a qui sont plus baquets, plus drôles, mais tu sais, il y en a qui ont l'air méchants pour vrai, ouais, là, ouais. Ceux à deux têtes qui crachent du gaz puis du feu.
Et tu peux pas trop dénaturer non plus son look dans le dessin animé, parce que là, sinon, les gens le reconnaîtront plus.
Ouais, c'est
plus,
ça, exact.
C'est toujours délicat.
C'était, ouais, c'était ceux-là qui ont accepté qu'il reste plus...
un petit peu plus cartoon.
Ouais, c'est ça, voilà.
Tout à fait.
Puis il paraît très bien. C'est ça, c'est pas un monde réel, c'est vraiment le croque-mou animé qui
ouais,
est collé là, comme un peu Sonic, tu sais, quelque chose de même. Là.
Donc, ouais, non, moi, tu l'as dit, moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je connaissais rien de cet univers-là. Visuellement, c'est très spectaculaire, honnêtement. Puis, je pense que le plus value, pour ceux qui connaissent bien la série animée de film, ben là, c'est de le voir en chair et en os dans des scènes d'action vraiment époustouflantes. Toutes les scènes de vol et tout ça, là, mm-hmm. c'est
ouais,
vraiment bien réussi.
Ouais, l'action est là. Pas l'action comme John Wick, là, mais... C'est ça, ouais, le vol en air, ils l'ont dit, ils sont pas gênés à écouter Top Gun puis à écouter tous ces trucs-là pour voir qu'est-ce qui fait qu'ils sont excitants, là, les films qu'on de cascades aériennes, des missions impossibles qui sont excitants. On analyse le montage, les plans, le rythme de ces choses-là pour le recréer. Tu sais, il y a des versions 3D aussi du film, fait que c'est ça qu'on veut, que ça soit hot et immersif. Tu sais. C'est vraiment tout thumbs up. Là. C'est vraiment réussi cette adaptation-là.
Un bon
là,
scénario, c'est... des personnages drôles, amusants, touchants aussi. Donc, les deux comédiens, les principaux, il faut souligner aussi qu'ils font un bon travail. Mason Thames, qui était dans The Black Phone.
Mais c'était pas le petit gars principal?
Oui, c'est lui qui avait été kidnappé, mais là, on est quelques années plus tard,
ouais,
donc
c'est ça,
il a grandi. Mais tout le long, je me disais, son visage vient de où? Tout ça.
Puis il va être dans Black Phone 2.
Il va être dans le 2, fait que grosse année pour Mason.
Oui, c'est ça.
Et celle qui joue Astrid, bon, ça avait créé quelques remous.
Parce qu'elle n'est pas blanche.
Parce qu'elle n'était pas blonde.
Oui, je le sais, ça m'a
gossé.
Ah, OK,
mais... Ouais, ça t'a gossé toi aussi. Mais elle est très bonne, jouée par Nico Parker, que toi, en fait, tu voyais Catherine Levac tout le long.
Oui, je voyais une jeune Catherine Levac. Quand
mais c'est une fille d'une comédienne connue, parce que je trouvais que son trait aussi me rappelait quelqu'un. Donc, c'est la fille de Tandewi Newton.
Ah, ben oui, OK.
Fait que, voilà, qui commence à faire son chemin dans le monde du cinéma et de la télévision.
Oui, oui, tout le monde est très bon dans ce film-là.
Ouais.
J'ai lu aussi que pour la chimie, justement, de toutes les jeunes, là, une couple de visages, celui qui était dans Deadpool 2, là, puis du monde comme ça qui reviennent, ils ont utilisé cette technique que certaines productions utilisent, c'est qu'ils ont toutes faites à être coloc. Fait qu'amener les auditions, c'est comme on veut lui, on veut lui, on veut lui, mais là après, ils les mettent ensemble. Ça prend des budgets pour faire ça, mais tes recalls, tes réappels, tes mets ensemble là, faites juste parler, niaiser, puis là c'est comme OK, ce que vous dites, t'sais, comme parce qu'ils se chirpent, ils s'agacent entre eux, ils se boulient un petit peu. Fait que pour que ça semble naturel, puis tout, ben ils ont fait cohabiter, être coloc tout le temps du tournage, puis toutes ces affaires-là pour que cette chimie-là soit pas forcée, mais devienne naturelle. Je sais que Olivia Wilde avait fait ça pour Booksmart, entre autres, parce que pour que les deux aient l'air d'avoir vraiment une chimie, ben avant le tournage, ils ont fait être coloc, passer du temps ensemble, créer une chimie, puis une aisance à être ensemble, puis des comment on appelle ça, non? Des inside, c'est ça que je voulais dire un peu. Fait que ça marche bien. Quand tu as les moyens de le faire, de les faire habiter, de faire déménager, de faire ça, ben ça apporte des vrais résultats.
Donc, à voir, c'est vraiment une très belle réussite. Vous allez passer un beau moment en famille ou non, parce que même plus vieux, je pense que
c'est plus ça. Très un beau moment ou non, mais tu veux dire en famille ou non.
Ou non, c'est ça. Et écoute, Universal y croit tellement au succès qu'on a déjà annoncé une suite pour 2027.
Qui va être donc l'adaptation
du deuxième. Probablement du deuxième, logiquement.
Ailleurs.
Ben écoute, on verra bien.
1.5, c'est ça.
Donc voilà pour How to Train Your Dragon. Si jamais vous êtes à l'aise de laisser vos plus vieux un petit peu aller voir ce film-là qui vous intéresse moins, peut-être pour les adultes ou les jeunes couples aussi, il y a The Materialist de Celine Song.
Je vais être obligé de te reprendre, c'est juste
ouais, c'est Materialist. Je voulais dire... Ouais.
Il y a le film Materialist, c'est ça. L'entremetteuse au Québec de Céline Song, il me semble le nom nous dit de quoi. Bon, mais c'est une cinéaste d'origine, entre autres, canadienne, mais pas exclusivement canadienne, qui avait fait le film Past Lives il y a 2023, je pense. Et qui s'était rendu assez loin aux Oscars, entre autres, nomination meilleur scénario original, mais n'a rien remporté.
Ton nomination meilleur film. Aussi, quand même, un des 10.
Puis, moi, je me trompe, puis il n'a pas gagné d'Oscar.
Non,
c'est ça. Puis, c'était un film de A24, alors il récidive encore cette fois. Elle s'attaque un peu au mythe de la comédie romantique, si on veut. Je dirais plutôt du drame sentimental. Ouais. On est à New York, la ville des amours perdus. Le cœur d'une... C'est une marieuse professionnelle, donc, qui est jouée par Dakota Johnson, qui travaille dans une agence de rencontres, mais un peu élitiste, si on veut. Fait qu'elle rencontre des hommes, des femmes.
Pour
leur demande. Ouais, c'est ça. Leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Souvent, les choses qu'ils veulent, c'est des gros salaires de la part du monsieur. Puis le monsieur veut un beau body du côté de la femme.
10 ans plus jeune.
Exact, au minimum. Fait qu'on joue dans ces stéréotypes-là. Fait qu'elle, elle fait ça. Elle fait rencontrer du monde. Puis c'est du monde qui paye, t'sais. On le dit pas exactement, mais c'est quelques centaines de dollars sûrement par mois pour avoir ce service-là. Puis la grande victoire, c'est d'aller au mariage des gens. Puis yes, on a réussi. Ça fait que c'est ça notre plus-value. Puis justement, à un de ces mariages-là, ben, elle va rencontrer le frère du marié, qui est joué par Pedro Pascal, qui est donc un homme très beau, un peu plus vieux, riche, qui, ça connecte, intelligent, très, très éduqué, qui vient d'une famille aisée. Fait qu'elle, qui croyait plus tant à l'amour, se dit « Oups, peut-être que ça pourrait être un bon prospect, une belle relation, justement, ça coche beaucoup de cases. » Mais au même moment, va retomber sur son ex, joué par Chris Evans, qui on va comprendre pourquoi leur relation s'était finie puis que c'était plus difficile financièrement et de plein de façons. Alors là, son cœur va jongler entre ces deux options, si on veut, pour se caser dans la vie, entre un peu le cœur et la raison. C'est plus drame sentimental que comédie romantique.
Faut faire attention parce que la bande-annonce nous vend peut-être
c'est
un autre film.
Avec la bonne musique et tout, là, on n'est pas dans... Oui, on se moque un peu de ces films-là qui ont fait le succès de Jennifer Lopez, par exemple, dans les années 2000, de Ten Things I Hate About You et tout, mais on n'est pas non plus... C'est pas une parodie de ces affaires-là. On est dans le même monde, mais un côté plus sérieux qui porte très bien la plume de Celine Song, justement. Ouais.
C'est très cérébral et il y a beaucoup de dialogue.
Oui, voilà, c'est ça. C'est plus que de moments romantiques, justement, disait d'entrée de jeu en blague, là, les grandes pétales puis les bougies allumées partout. Tu sais, un peu ce qu'on a vu dans... que j'avais beaucoup aimé là, cet automne avec Florence Pugh puis Andrew Garfield, le titre m'échappe.
Ouais, moi aussi,
puis tu sais, il y avait ça à un moment donné, là, les scènes de la vie de quelqu'un. J'ai mélangé avec Past Lives, mais L'amour au présent, ça, c'était le titre au Québec. Là. Puis, Time... Love in Time? Puis, tu sais, qui a amené sa déclaration pour son mariage, et ça, elle rentre chez elle, il y a 300 chandelles d'allumées. Puis, tu sais, il y a moins cet effet-là dans le film. Comme on dit, c'est plus cérébral, mais c'est pour autant très accessible. Je trouve que c'est un bon film d'été.
C'était We Live in Time.
We Live in Time, merci. Bref, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais il ne faut juste pas avoir des trop grandes attentes de ça va révolutionner le monde du film romantique. C'est comme, ben non, à un moment donné, on peut pas changer la roue. C'est encore une roue, là, mm-hmm. tu sais. Mais c'est très bien fait comment ça se passe, comment c'est mené, les petits moments des flashbacks de elle puis le personnage de Chris Evans, comment pour bien comprendre. Fait que c'est super bien construit, c'est tout en finesse, tu sais.
Oui, c'est ça, on est loin un peu, puis sans être négatif, là, mais un peu de ce genre-là qu'on retrouve en masse sur Netflix, toutes les trucs de streaming, aussi, là, ouais, c'est ça. Fait qu'on n'est pas du tout dans ce traitement-là, puis on n'est même pas non plus dans un triangle amoureux, un peu ce que la bande annonce aurait
ouais,
pu présager.
Ouais, il n'y a pas de confrontation
non,
entre les deux gars.
Non, c'est ça, fait que moi, je trouve que ça... C'est ça, ça évoque vraiment le cinéma indépendant américain dans son meilleur, dans son traitement. C'est très beau esthétiquement, bien joué. Même si Dakota Johnson, je l'aime bien, mais tu sais, je trouve pas que c'est une grande actrice non plus. Je trouve qu'elle joue un peu toujours elle-même, mais dans ce rôle-là, elle est efficace,
c'est
elle fait
ça.
La
mais c'est
job.
Pas, c'est un rôle introverti.
Oui, c'est
pas
ça. Elle pas dans la séduction.
Qui est extraverti puis qui fait des folies avec ses amis de girls. C'est comme c'est une solitaire ouais. quand même. Puis
elle-même, elle se décrit, ouais, qui est brisée.
Par sa job, c'est ça.
Ouais. Qui est calculatrice, un peu froide, et elle-même, ouais. son personnage. C'est comme ça qu'elle se décrit. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc, mais bref, ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis.
As-tu versé une larme?
Non, j'ai pas versé. Ah, ce que j'allais dire, c'est que j'ai aimé qu'on... Il y a beaucoup d'enfance mise sur son travail aussi, sur ce monde-là. Fait que c'est pas juste accessoire oui, non plus. Vrai. Fait que ça, j'ai trouvé ça fascinant quand même. Parce que je dois avouer que chez nous, ma conjointe avait déjà écouté un peu ce genre d'émissions-là qui existent, là. Fait que du traitement, des fois, je tendais un peu l'oreille, là. Fait que je connaissais que ça existe, ces agences-là,
ben, moi,
pour clients riches.
Je le savais pas, mais en écoutant le film, je me dis, tu sais, elle a pas dû inventer ça, ça doit, puis tu me l'as confirmé qu'il y a, ouais. oui, il y en a même des téléséries, comme ceux qui vendent, tu sais, des mains, Selling Sunset, là,
oui,
des
oui,
affaires qui vendent des maisons juste pour les gens riches, ben, il
oui,
y a
oui.
des Elite Single Agency et tout, là.
Et non seulement ça, mais Céline Song a déjà fait ce travail-là.
Ah!
Fait
ouais,
que,
okay.
ouais, fait que je pense que c'est pour ça qu'on ressent une authenticité dans sa façon de d'écrire
ouais.
des dialogues, de présenter
ouais,
le tout,
juge
là.
Pas
c'est...
le travail.
Non.
Parce que c'est vraiment ça. C'est du monde qui n'ont pas envie d'être sur Tinder, fait qu'ils veulent ouais. déjà réduire leur liste. C'est du monde que... C'est très aussi American Dream, là, je trouve, l'idée ouais. de... Tu sais, c'est des... On le sent que sa clientèle... Il y a plusieurs de ces femmes-là qui ont envie d'être femmes au foyer d'un homme qui gagne 300 000 $ ouais. et plus par année, qui travaille dans les banques, puis ces affaires-là. Puis c'est très superficiel, mais c'est pas des mauvaises personnes. C'est juste mm-hmm. qu'on dirait que c'est cet écosystème-là. Il faut qu'il y ait étudié à Harvard, puis qu'il vienne d'une famille riche qui possède un vignoble. Tu sais, t'es comme... Mais ça existe. C'est un peu du wannabe 1%, là, mais ouais. c'est ça pareil. Fun fact d'amour, en parlant de Céline ouais. Song, je ne savais pas, est en couple avec le scénariste ouais. Justin Kuritskis, qui a travaillé, lui, sur les deux derniers films de Luca Guadagnino, Challengers mm-hmm. et Queer. Fait qu'un power couple de scénaristes de films indépendants. Et,
ouais.
tout.
Et Challengers, qui avait aussi une histoire d'amour,
de
un trio et tout ça.
De belles personnes. Oui, parce que là, il y a ça aussi dans l'engouement autour du film. Il y a un petit peu de Pedro Pascal versus Chris Evans. Pedro Pascal, qui est la nouvelle coqueluche ouais. Hot pour... moi, autour de moi, là, toutes les femmes de entre
ah ouais.
30 et 40 ans sont comme « Oui, il approche 50, mais I don't care, je le veux. » Puis d'autres qui est comme « Moi, j'ai connu le beau Chris Evans de l'époque. Le comment il l'appelait, là, le derrière... America's
best
nice
butt,
best ass, là, ou quelque chose comme ça. Là, les jokes de quand il y a ses tight pants dans Captain America. » Fait que c'est pour ça que c'est plus le marketing donne ça, mais dans le film, il n'y a pas de scène où ils se battent. Cool rôle aussi pour Chris Evans, parce ouais. que c'est un rôle aussi un peu plus en retrait. Il n'est pas Johnny Rocket, là, qui était à l'époque des Quatre Fantastiques. Désolé de décevoir, pas de scène sous la pluie avec ses ouais. abdos. Il reste Chris Evans, là, je veux dire, il met t-shirt, jeans, puis il est chaud. Là, mais il ne met pas en valeur son corps ou qui il est. C'est pas un film qui est suave, qui est sexy, là. C'est pas du young adult, là.
Non, vraiment pas.
Mais excellent film, oui.
Oh, petit fun fact, on l'avait remarqué, il y a une scène où, justement, le personnage, en fait, joué par Chris Evans, est un aspirant acteur, mais sa carrière commence à trouver ça dur parce
ouais,
qu'il approche
ça.
La quarantaine, puis il est toujours
il fait
pas vraiment...
des pièces de théâtre indépendantes. Là.
Effectivement, donc une des pièces dans lesquelles on va jouer qui s'appelle Tom and Eliza, et sur l'affiche, on voit que c'est une pièce écrite par Céline Song, et
ouais.
tout ça, c'est bien mis en évidence. Donc, et c'était le cas. Donc, c'est vraiment une pièce existante que Céline Song avait écrite en 2016. Donc, elle s'est fait un petit clin d'œil à elle-même. Fait que, voilà.
Tu sens mieux? J'avais envie de jouer à un petit jeu rapidement. On a oublié de s'en reparler. S'il y avait une version québécoise, qui tu mettrais aujourd'hui? Tu m'as nommé pour le rôle féminin. Tu m'as parlé d'Évelyne Brochu. Je trouvais ça intéressant comme, comme casting. J'ai repensé aussi peut-être justement Juliane Côté, Sarah-Jeanne Labrosse. Je pense que ça pourrait marcher. Ça dépend du ton du film.
Ouais.
Il y a un mélange d'aura et de charisme. Puis des fois, c'est juste qui ressemble aussi mettons à Dakota Johnson. Puis ça dépend des âges. Pour le personnage de Pedro Pascal, mon premier réflexe a été Pierre-Yves Cardinal.
Ouais.
Mais si tu mets une Sarah-Jeanne, ben là, il y a comme, ben, y a une différence d'âge qui est raisonnable. Là, en tout cas,
ouais, une dizaine
d'années. Parce que c'est un peu ce que les personnages ont dans le film aussi. Éric Bruneau, évidemment, c'est comme un... Tu sais, quand celui qui est plus propre, riche, neat, c'est sûr qu'on y pense.
Mm-hmm.
Plus champ gauche, j'ai pensé à Alexandre Landry aussi, qui pourrait faire ça.
Ouais.
Puis dans le Chris Evans, là, il commence à être un peu plus vieux. Là, je ne veux pas chamer personne. François Arnault, c'est sûr que c'est dans les un peu plus foufou, ça marche.
Ouais, j'avoue.
Plus jeune, Antoine Pilon. Pas Antoine-Olivier Pilon, mais Antoine Pilon.
Mm-hmm.
Puis peut-être Henri Picard là, aussi qui devient dans les,
dans les
youngsters. Il est plus jeune pas mal. Là. Fait que là, si tu mets Évelyne Brochu, puis là, c'est dur de croire qu'ils ont sorti ensemble avant. Fait que là, faut que tu rajeunisses tout le casting de 10 ans. Là. T'es plus deux vingtenaires puis un trentenaire plutôt que deux trentenaires puis un quarantenaire.
Henri Picard, je le prendrais pour Dragon pour qu'il joue Harold.
Ouais, c'est sûr, mais là, si tu fais trois films, faut que tu les fasses rapidement parce que bientôt, il va avoir 27 ans puis là, ça va être plus dur. T'avais-tu un autre nom de même? Tu penses-tu? Je sais pas de
non,
pas préparé. Ça,
ouais,
mais...
c'est ça, rapidement.
Parce que tu sais, Magali, ça.
Ça
marche, mais là, elle vient de jouer simple comme Sylvain, mais tu sais quoi, Pierre Cardinal aussi. Là, fait que pour ça que j'y allais dans
mais
la
c'est
différence.
Pas le même rôle, le même genre de rôle qu'il aurait lui à ce moment-là.
C'est ça, exact. Fait parce que comme aux deux femmes en or aussi, c'est sûr que Laurence Leboeuf, Karine Gontier, ça peut se jouer pour. Karine Gontier, en tout cas, je sais pas, jamais. En plus, on a parlé de ça dans l'entrevue, mais là, elle est plus à 40. Elle est deux approches. Je sais pas, Dakota Johnson, dans quel âge, pour vrai, versus son
personnage. 35.
OK, c'est ça. Puis son personnage a ça, 33, 32.
En fait, c'est Chris Evans qui est un peu l'imposteur parce qu'il joue à peu près cet âge-là, je pense.
Mais lui, il a passé 40.
Il a
aussi passé
40. Je pense qu'il a 43. Je pense qu'il dit qu'il a 38 dans le film. Que je me souviens, mais il a 43.
C'est
ça. 50. Bien,
amené en vieillissant, c'est ça. Je trouve qu'il y a un jeu de plus ou moins 5 ans qui fonctionne. Souvent, on mise plus sur le moins 5 ans que le plus 5 ans. Là. On veut que les gens jouent plus jeunes que ce qu'ils sont et non l'inverse. Mais c'est ça. Mais il y a un âge jeune où ça marche pas, là, comme tu dis. À 25, tu peux pas jouer. 17, là, tu sais.
Ah, pourtant, il y en a beaucoup qui font dans les.
Mais si tu le fais, il faut qu'ils le fassent tout.
Dans le temps de Ramdam, puis de Watatata.
Mais il faut que tout le monde ait 24, puis joue du 17.
Oui, oui, c'est ça.
Parce que si tu mets un 19, là, c'est comme, OK, oui, vraiment.
Parce que tu as même dans Fanny, Milia, quoi, 21, puis là, elle joue du 15-16.
Mais ils ont toutes 19, 20, c'est ça, là.
Il n'y en a pas un qui a 14.
Pour vrai, ouais, c'est ça, ça clasherait, là, tu sais.
Donc, voilà pour Materialist.
Et où au Québec, les matérialistes, non, je sais pas, l'entremetteuse.
Allons complètement ailleurs.
Je sais pas s'il y en a une au Québec, Montréal, une agence élite comme ça. Là, pour.
Bonne question. Je sais pas s'ils ont assez de...
De clients, tu sais.
De clients, c'est ça. Le bassin est assez si grand que ça.
Pierre-Carl Pelladeau, Justin Trudeau, là, sur quel... Ben, il est pas à Montréal, mais sur quelle sur quelle agence? Il ira pas sur Tinder, là, ça veut...
Ouais.
Je connais une amie d'une amie. Il y a peut-être une agence spécialement pour la politique aussi.
Ah, sait-on jamais. Donc, allons avec The Life of Chuck de Mike Flanagan.
Oui, au Québec, littéralement. La vie de Chuck. Avec une couple de gros noms, pas mal. Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillian, Mark Hamill, en parlant de ta nostalgie, qui lui aussi, là, il a une moustache puis il joue un bonhomme un peu alcoolique, ça lui donne un coup de vieux. Parce que les derniers rôles qu'il avait, c'est sûr que quand il gardait Luke Skywalker puis des choses comme ça, il paraissait pas si vieillissant, mais là, je trouve vraiment... Ben, il joue plus vieux, la moustache, tout ça, là. Tu fais,
il joue son âge.
C'est un grand-père, là.
C'est tout à fait.
Qu'est-ce qui se passe dans The Life of Chuck? Assez spécial, ce film-là. On comprend, on est sur la côte californienne. C'est la fin du monde qui commence. Qui commence par des espèces de cataclysmes écologiques, comme un peu ce qu'on voit venir, la crue des eaux, des feux de forêt, des éruptions volcaniques. Ça va pas bien. Ce qui va amener à genre la fin de l'Internet, la fin du réseau télé. Puis les gens sont un peu devant l'inconnu, devant cette peur-là. Mais au même moment où tout ça arrive, puis là, on suit plus le personnage de Chiwetel Ejiofor puis de Karen Gillan, là, il y a des pubs. Puis c'est un moment où personne mettrait des billboards, mais des billboards qui disent « Bravo pour tes 39 ans de service. Thanks, Chuck. » Pour le personnel de Charles Kranz, avec la face de Tom Hiddleston avec un café puis des lunettes qui a l'air 100% comptable banquier. Puis tout le monde se pose des questions sur l'angoisse de la imminente fin du monde, de genre hey, « on n'a rien fait, puis ça s'en vient », puis de genre « what the fuck cette affaire-là? » Fait que c'est ça. Puis c'est un film, je vais quand même un peu arrêter là, mais c'est un film qui est en trois actes, mm-hmm. mais qui se passe à l'envers. On commence par l'acte 3, ensuite on va voir le deuxième acte, ensuite le premier acte. Fait que donc, à l'inverse du temps. Fait que c'est pas un personnage à la Benjamin Button qui réduit, c'est juste la manière qu'on nous conte l'histoire est inversée.
Donc, fait qu'on commence avec ce personnage-là rendu adulte et on va retourner jusqu'à ce temps qu'il soit.
C'est ça. Au deuxième acte, ça va être sa vie adulte. Là, on va voir l'entrée de Tom Hiddleston. Puis, troisième acte, ça va être quand il est joué plus jeune. Donc, qu'est-ce qui va mener à ce qui vient la suite. Ouais. Fait qu'on va nous donner, on va tranquillement au courant du film ouvrir des portes et à la fois nous donner des clés pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se cache derrière chaque porte. Littéralement, il y a une porte qui est barrée tout au long du film dans la maison victorienne.
Tout à fait. Il y a une porte remplie de mystères et ces mystères, on le doit à Stephen King parce qu'il faut mentionner que c'est une adaptation d'une de ses nouvelles publiée en 2020 dans le recueil If It Bleeds, en français 6 à 5. Une nouvelle qui est quand même plus cosmique, plus... On n'est pas dans l'horreur, non, vraiment pas. On est plus dans une parenté à Stand By Me de Shawshank Redemption, à la limite un peu de Green Mile, mais pas aussi fantastique non plus. Fait que c'est vraiment un changement de ton. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient que c'est une de ses nouvelles ou ses histoires les plus optimistes quand même de Stephen King. Fait que...
Puis Flanagan aussi, on l'a connu. Ouais. Pas. C'est la troisième fois qu'il travaille avec des œuvres de King, mais il a fait aussi des films d'horreur, des Ouija puis des affaires de même. Ouais. Lui non plus, on n'est pas du tout dans l'horreur. Il fait des séries d'horreur aussi.
Ouais, c'est ça, aussi, sur Netflix, les grandes, qui a eu beaucoup de succès.
Les Haunted Manor,
c'est ça. Oui, The House of Haunted Hill, des trucs comme ça. Donc, il avait fait la suite de Shining, Doctor Sleep, mais quand même Gerald's Game, qui était justement moins dans l'horreur, qui était plus une espèce de misery un peu, mais il navigue bien les genres. Mais là, ici, on va complètement ailleurs. Moi, honnêtement, c'est un film que j'avais de grandes attentes parce qu'il avait gagné quand même un prix du public à TIFF à Toronto en l'automne dernier. Puis un peu partout où il est passé, il y avait de bonnes critiques et tout ça. C'est quand même distribué au Québec par Neon Pictures.
Ben, au Québec, c'est Entracte.
Excuse-moi.
Aux États, mais
c'est Neon. Aux États-Unis, Neon. Qui ont quand même leur ligne... éditorialiste, artistique assez précise. Fait que j'étais quand même, ça m'avait un peu étonné. Ça avait l'air d'un film un peu plus grand public. Finalement, ce n'est pas tant. Fait que soyez avisés quand même. C'est quand même un film qui est accessible, mais qui fit bien avec un peu le weird quand même de Neon. Là. Fait que la mise en scène, la façon que c'est raconté, même l'histoire elle-même, ça peut détonner. Fait qu'il faut être patient, je pense, parce que c'est un film qui prend du temps... qui installe beaucoup, puis on va se demander jusqu'à la pratiquement toute fin qu'est-ce qui se passe. Mais pour moi, ça, c'était juste un plus, honnêtement. Oui, j'ai été scotché tout le long. Vraiment, j'ai été fasciné tout le long.
Mais il n'y a rien, c'est ça, il n'y a rien d'effrayant au film. C'est une ode à la vie. C'est une ode à profiter de notre vie, de la vie, parce que ça commence quasiment en éco-anxiété. Mm-hmm. Mais à un moment donné, c'est plus ça. Genre, fait que c'est tout ce monde-là par rapport à c'est qui Chuck, c'est quoi sa vie de Chuck, qu'est-ce qui se passe avec lui, avec Chuck. Quelques scènes de danse aussi, vraiment pas un musical, mais de gens qui dansent. Ouais. On sait que Tom Hiddleston fait partie de ces comédiens au talent
versatile,
infini. Que je trouve aussi qu'il y a un arc de carrière très beau, Tom Hiddleston, qui s'est fait connaître beaucoup par Loki, qui a dû acheter sa maison avec ça et tout. Puis que là, il choisit bien ses projets. Fait qu'il est très apprécié. Il plonge souvent dans le cinéma plus indépendant et non pas des films de gros studios. C'est sûr que les comparatifs qu'on entend, c'est Forrest Gump, c'est le show Truman, qui est un peu aussi ce qui a changé l'angle de Jim Carrey.
Je trouve que celui-là est très, très à propos, parce que c'est quand même un film qui est très cérébral. qui fait un peu placer aussi, justement, je trouve, dans les décors. Il y a comme un décalage. Est-ce que ce qu'on voit est réel ou pas? Fait penser un peu à ce côté-là, Truman Show. Là,
c'est ça. Mais ajoutons que, imagine que dans le show Truman, nous, on le sait pas que c'est une télé-réalité, puis tu mélanges un peu les choses. Là. Ben, je sais pas, c'est pas le punch de ce film-là, mais c'est comme les morceaux du casse-tête sont plus mélangés.
Oui, oui, oui.
Tandis que dans le show Truman, c'était ça le but, c'est que nous-mêmes, on regarde le film qui est un film sur quelqu'un qui est dans une série puis qui le sait pas. Fait qu'il faut que nous, on le sache pour avoir cette empathie-là envers la personne, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un film qui est quand même cérébral, mais qui est facile et people-pleaser à sa façon.
Ben, moi, je trouve qu'il y a de beaux moments. Il y a vraiment de très belles scènes, dont celle de la danse, entre autres, avec une drummeuse.
Artiste de rue.
Artiste de rue qui joue de la batterie. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un beau moment.
C'est un film aussi qui est narré. Il y a une narration, Nick Offerman, en version originale, qui fait la narration. Chuck faisait telle affaire et tout. Fait qu'il y en a que ça peut miner, mais c'est ça qui permet que le flow fonctionne pour le spectateur. Là.
Et d'ailleurs, ça fait écho à Stand By Me puis The Shawshank Redemption, où il y avait aussi beaucoup de narration dans ces deux films-là.
C'est ça. Ce sauf que dans Shawshank, c'est Red, donc c'est un personnage qui narre lui-même.
Dans Stand By Me aussi, c'était le personnage de Will
Wheaton. C'est
ça, là, c'est
quelqu'un complètement autre, là, narrateur externe. Voilà, fait que c'est dur de... On veut pas divulgager le film, dire exactement qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est à voir, mais c'est pas le film qui va être sur tous les écrans, tout cinéma. Là. Il doit quand même sortir au moins sur une quinzaine, peut-être 20 écrans. Mais je comprends que c'est plus limité. C'est ça. C'est dans l'ADN Neon, mais sans être weird horror. Là. C'est pas Bring Her Back. Là. Non, ça, c'est R24. Mais en tout cas...
Non, très, très accessible. Donc, si vous aimez juste un peu les... Des films différents, là, un peu plus d'auteur.
Un peu film de festival, quand même.
Ouais, ça vaut vraiment la peine. Puis vous allez voir quelques visages familiers, quand même, dans le film, qui m'ont surpris, dont deux, quand même, ça faisait longtemps qu'on avait vu. Tu parlais de Mark Hamill, quand même, qu'on a pu revoir un petit peu dernièrement. Mais c'est lui qui joue sa femme, donc la grand-mère du personnage de Chuck, de Tom Hiddleston. C'est Mia Sara, qui jouait Sloane Peterson dans Ferris Bueller's Day Off.
C'est qui Sloane
Peterson? C'était la blonde de Ferris.
Ah, OK. Oh.
Puis écoute, je pense que ça faisait comme une dizaine d'années qu'on ne l'avait pas vue dans quelque chose, mais son dernier grand film américain hollywoodien, c'était 1994, Time Cop avec Jean-Claude Van Damme.
Oh là là!
Okay. Fait que c'est quasiment 30 ans qu'on l'a vu sur les écrans. Fait que elle se ressemble un peu quand même. Et on retrouve aussi Heather Langenkamp, un petit rôle. Elle joue une voisine qui est un peu malade. Heather Langenkamp, c'était Nancy Thompson dans Nightmare on Elm Street 1 et 3.
Les vrais savent.
Écoute, puisque c'est quand même un personnage marquant. On retrouve aussi Matthew Lillard de Scream aussi.
Lui
quand même.
Aussi qu'on voit popper à gauche une fois de temps en temps. Ben, là, dans Five Nights at Freddy's. Ça
et tu parlais du personnage de la professeure un peu hippie, tout ça, qui ressemblait à Megan Fox.
Une jeune Megan Fox.
Ouais, c'est ça. Effectivement, son visage m'était familier. C'est le nom peut-être moins Kaylee Siegel. Mais c'est la conjointe de Mike Flanagan et elle est de tous ses projets, dans tous ses films, même les séries télé. Fait que moi, j'ai replacé avec The House on Haunted Hill, entre autres. Là, fait que j'ai fait le lien. Mais je ne savais pas que c'était sa conjointe puis que dans toutes ses productions, finalement.
Et est-ce que je me trompe ou c'est même... J'ai oublié de noter, mais j'ai vu en regardant ce Letterboxd, c'est lui qui fait le montage de son film?
Oui, il est monteur, en fait, de tous ses projets. Ouais, okay. C'est ça. Comme Sean Baker d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Il y en a que c'est tout ou rien. Ouais. C'est comme soit ils sont dans leur film puis ils jouent dedans, mais tu sais, c'est moi qui le montre, il est dans ma tête, j'ai mon idée, puis d'autres que c'est comme non, ça prend un professionnel, ça prend un regard externe qui j'y fais confiance et cette personne-là, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont monteuses.
Ouais.
Cette personne-là va me dire non, ça c'est trop, non, tu vois le rythme ici, tu sais. Parce que quand toi tu fais, tu tournes, t'as écrit, tu tournes, tu sais, t'as de la misère à avoir du recul puis à accepter de couper des scènes, de couper des dialogues. Non, c'est trop bon, mais c'est ça qui fait des fois que le film est un petit peu flat ou 4 minutes trop long pour comme. Fait que quelqu'un qui est externe fait comme non, ça niaise ici, il faut qu'on coupe. Puis c'est comme,
D'aller chercher la bonne prise. Des fois t'es hésitant. Mais il y a d'autres cinéastes comme Steven Soderbergh aussi, c'est la même chose.
Ouais.
Les frères Coen, mais eux vont utiliser des pseudonymes, ce qui est très drôle, ils mettent pas leur nom.
Robert Rodriguez aussi, il a souvent monté une coupe de ses films comme ça. Je ne sais pas s'il le fait tout le temps. Mais...
Donc voilà pour The Life of Chuck. Pour l'offrande internationale de la semaine, un beau petit film français, Les musiciens de Grégory Magne.
Oui, des visages moins connus ici.
Ouais.
Je vais aller direct sur le synopsis. On va être quasiment en huis clos dans un château parce que c'est une mécène, donc quelqu'un qui a d'héritage riche qui veut exaucer la volonté de son défunt père. Donc, elle va ramasser 4 Stradivarius, des violons et violoncelles hors de prix et très rares, et engager 4 musiciens, musiciennes qui sont tous des piliers de leur art, de leurs instruments, mais de différents milieux, j'y reviendrai, pour leur demander de jouer ensemble une pièce que son père avait commandée 30 ans auparavant à un compositeur, puis qui avait encore jamais été jouée. Donc, elle a été commandée juste pour lui, mais ça n'a toujours pas été fait, il n'arrive pas à réunir ça. Fait que là, elle a tous les morceaux. Elle a les violons, elle va chercher les personnes. Fait que, t'as un qui est vraiment un peu une vedette de la musique classique, là, qui est poster boy, il est beau, un peu rockstar, mais du classique. Il fait des CD où il joue plein de morceaux puis des affaires
un
comme ça.
Un petit peu imbu de lui-même.
Oui. Il se prend pas pour un 7-Up flat. Il y a un qui sont un ancien couple ou qui ont eu une idylle amoureuse. Un qui est même non-voyant ou malvoyant. Elle, la violoncelliste. Puis une autre violoniste, mais elle qui est plus une populaire des médias sociaux, qui a pas fait toutes les écoles de musique de la même manière. Mais
un talent naturel.
C'est ça, mais qu'on la remet en doute parce que elle est talentueuse, elle fait des prestations de musique classique, mais après, c'est une photo d'elle en bikini sur la plage. Fait que là, on dit, ben là, le monde t'écoute juste parce que t'es belle puis t'es jeune. Puis elle dit, oui, mais en même temps, après, ils écoutent moi qui joue du Vivaldi. Fait que ça leur fait peut-être découvrir cette musique classique-là qui, on se cachera pas, de nos jours est moins dans l'air populaire, là, ben de nos jours, depuis plusieurs décennies. T'sais, c'est à part de la musique pop. Fait que du monde comme ça, c'est, ben moi je travaille pour la rendre populaire. Fait qu'il va avoir du clash entre ses musiciens, des têtes fortes. Fait qu'elle va faire appel donc cette mécène-là. Elle va dire, ben là, amenez-moi, je vous ai tout mis là, puis je paye, là, mais je peux pas vous sauver. J'ai besoin d'un bon coach, d'un Martin Saint-Louis. Fait qu'elle va chercher le compositeur de la musique pour dire, ben peux-tu venir les diriger puis rendre vie à cette œuvre-là que tu as composée. Puis lui, il va dire, ben, finalement, je pense que j'aime plus ça. La musique que j'ai faite, je la sens mal. Fait que tout se remet en branle, mais ils sont comme, oui, mais là, on a la captation là, dans une semaine. Fait qu'il faut que ça avance. Là. C'est pas un projet qu'ils font juste pour le fun. C'est parce que il y a des fonds, ça va être diffusé, on capte ça à l'église à telle place, on a des dates. Fait que on est vraiment dans les répétitions à peu près une semaine avant l'événement, même 5-6 jours avant, il y a un décompte des jours.
Ouais.
Fait que un film sur la musique classique, mais sur la musique classique qui sort des moules de genre l'opéra et le chef d'orchestre, mettons. C'est du quatuor.
C'est un quatuor à cordes.
Voilà. Fait que c'est très excitant, très vivant. On parlait dans Materialist, c'est le fun de voir le métier. Bien, on voit un peu différent de ces métiers-là, on veut. T'sais. Même la réparation, ça commence avec la réparation, puis l'entretien, puis la mise en enchère des œuvres, puis ça va comme finir avec. Juste avant de te passer la parole, je vous cacherai pas, il y a des moments de musique qui sont super beaux, qui sont super vivants, donc la fameuse performance à la fin, ça finit pas avant, on la veut, est-ce qu'elle va arriver aussi bien que prévu, ça c'est le suspense du film.
Ben avant d'y aller avec mes impressions, toi en tant que musicien, j'étais juste curieux
de voir...
Je
suis pas un musicien classique par contre.
Non, mais quand même, tu apprécies la musique, tu connais un peu cet univers-là.
Je l'ai côtoyé plus au cégep, là, mais moi j'ai pas fait le conservatoire.
Est-ce que quand même t'as appris des choses, ça t'a fasciné de voir certaines...
J'ai pas appris, mais ça m'a rappelé que ce monde-là existe, puis existe pas juste par... Tu sais, comme un musicien populaire, tu peux pas... Tout le monde n'est pas juste Vincent Vallière, puis genre, je compose mes chansons, puis c'est moi. Tu sais, il y a du monde qui joue pour Vincent Vallière, puis quand ils jouent pas pour lui, ben ils jouent pour d'autres mondes, puis quand ils font leur musique qu'eux décident ou non de composer, ben là, ils jouent encore à plus petite échelle, tu sais. C'est rare les histoires des Ariane Moffat là, que j'accompagne Daniel Bélanger, puis amener je fais ma carrière, puis ça devient aussi big que lui. Puis, tu sais, fait que la plupart, c'est juste, ben, tu fais des gigs. Tu sais. Fait que c'est comme, oui, mettons, le rockstar, ben, il est premier violon, fait qu'à chaque fois qu'il joue, il est plus mis de l'avant. Mais les autres, c'est comme, ben, moi, je suis violoncelliste, puis je suis pour des affaires, puis ils doivent jouer pour des mariages aussi, pour du monde, puis parce qu'à un moment donné, tu veux.
À ce niveau-là, je sais pas, ça
non,
m'étonnerait.
Peut-être pas, là. Parce qu'à un moment donné, t'es dans un réseau de. Tu joues, mais.
Ça, dans le vrai monde,
mais,
qui
ça, cette affaire-là, c'est comme, ben. On t'engage, ça inclut une semaine, tu sais, tu dois avoir un per diem par jour, puis tu as la captation, puis ça va être une semaine de ta vie. Mm-hmm. Puis c'est un peu ce que le compositeur leur dit à un moment donné. Savourez le moment que vous avez beau vous dire « Hey, bye, à la prochaine », il y a des chances que vous ne rejouez jamais de votre vie avec ces gens-là.
Ouais.
Fait que tout ce qu'on crée est un moment présent, puis ça, il faut que ça se transmette. T'sais. Même un artiste qui fait un spectacle, pareil pour un humoriste, mais en musique, tu as une âme puis une émotion qui est différente que juste le rire. Mais tous tes spectacles vont être uniques. Même si c'est, tu sais, en musique classique comme en musique pop, tu joues la partition puis tu joues la même affaire, là, en général. Là, mais ça va être ta foi unique. Tu ne rejoueras pas le même stade, la même soirée avec t'as eu ta même journée. Puis tu mets tes affaires de côté puis tu es dans la force de la musique. Puis en pop, ce que tu vas avoir souvent, c'est ben, tu es sur le métronome, tu es sur le clic. On joue square, on joue la pulsation est calculée mathématiquement. Il y a une pulsation quand même, un beat, un rythme en musique classique, mais il est ressenti. Tu sais, souvent, ça ne bat pas la mesure. Là. C'est eux qui jouent ensemble puis qui s'écoutent. Puis ce bout-là, on l'étire un peu. Tu sais, si tu enregistrais la partition puis tu mettais un métronome calqué, il ne fonctionnerait pas. Il y a des moments qu'on ralentit, des moments qu'on allonge parce que c'est ça l'impression. Tu sais, on joue avec la temporalité un peu. Hein. Fait que ce film-là le rend très bien, cette énergie-là de la semaine. Après, les personnalités qui sont, ben là, c'est comme des clichés, mais c'est vrai qu'ils sont là. Puis ils les traitent de façon réelle et pas de façon plastique, mettons. T'sais.
Non, mais moi, écoute, ça fait partie des belles surprises d'un film que j'avais pas d'attente, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais voir. Finalement, j'étais vraiment emballé. J'ai trouvé. C'est quand même assez classique dans sa facture, mais mis dans un. Mais dans un monde, ou en tout cas dans un contexte que je n'avais pas vu. Donc, justement, de monter un petit concert pour un 4 soirs avec ces instruments-là qui sont inestimables, qui valent des millions de dollars et tout ça. Fait que c'est super intéressant.
T'sais, on imagine que c'est une captation qui va être vendue, mettons, TFO. Puis là, ça va jouer une fois en télé, puis après, ça va être sur leur YouTube. Puis tu sais, fait que c'est juste un moment unique qui crée, mais qui coûte une fortune, mais que ça fonctionne.
Ouais, c'est ça. Puis je trouve que justement, le scénario est bien écrit, les personnages sont intéressants, attachants aussi quand même. Mm-hmm. Ils ont une belle chimie entre eux, puis là, il faut dire que là-dedans, il y a deux comédiens qui savent vraiment jouer de la musique. Donc, Mathieu Spinozzi, qui est lui qui joue le premier violon, et Emma...
la violoniste?
Oui, Ravier, non, qui joue l'alto, la jeune.
Ouais.
Mais elle a joué aussi dans différents orchestres et tout ça, là. Mais elle commence à faire un petit peu plus de jeu. Mais la violoncelliste...
Oui, parce qu'on les voit jouer pour vrai, la plupart.
Ils jouent vraiment.
C'est la technique Armageddon. T'es-tu mieux de trouver des... C'est plus dur de trouver des acteurs qui apprennent à jouer de la musique. Fait que tu trouves des...
Mais pour les deux autres, donc Marie Vial et Daniel Garlitsky, eux, ce sont vraiment des vrais musiciens. Donc, ils n'ont jamais joué.
Ah, c'est ça.
Vraiment. Donc, mais je trouve qu'ils se tirent bien d'affaire, honnêtement. Puis en plus, pour jouer... Un couple
qui ont
déjà une idylle. Tu sais, ils jouent quand même un peu quelques moments plus dramatiques, là, tout ça. Là. Fait que je trouvais que le mariage.
Lui, il est vraiment non-voyant.
Oui, il est vraiment non-voyant. Puis, fils est d'origine russe. Et son père et son grand-père sont des violonistes de renommée mondiale et tout ça. Là. Fait qu'il a vraiment la suivi. Mais lui-même, c'est un des grands au monde. Là. Fait que c'est assez très bien. Donc, les musiciens, honnêtement, vous allez passer un très bon moment. Surtout, vous êtes mélomanes, vous aimez la musique classique. Allez-y, puis laissez-vous bercer par les sons.
Oui, c'est ça. Le chaos et le résultat final.
Ouais.
Tu parlais d'international, mais je nous enverrai encore plus loin, juste pour parler d'un film à sortie quand même limitée, un film japonais, coprod de Japon-France en fait, qui s'appelle Super Happy Forever, ou Heureux à jamais au Québec. Et il sort donc le 13 juin à Montréal, je pense que c'est du Parc, peut-être au Beaubien aussi. Puis il va avoir des sorties au courant des prochaines semaines dans d'autres cinémas à travers la province. C'est un film aussi qui se déroule en trois temps, accompagné de son ami Miyata, le jeune homme Sano, qui est un tokyoïste, qui vient de Tokyo, retourne à Izu, qui est une station balnéaire, donc au Japon. Mais on comprend que 5 ans auparavant, il avait rencontré une charmante demoiselle qui devint sa femme, mais que là, ils ne sont plus en couple pour différentes raisons. Fait qu'il est un peu dans cette nostalgie, ces affaires-là. Fait que premier volet, on va être dans lui qui est sa brosse puis un peu désagréable avec son ami. Deuxième temps, on va retourner 5 ans avant découvrir cette rencontre-là qui, de par ses tons un peu plus mélancoliques, plus joyeux, va changer aussi un peu le rythme puis le rythme du film. Puis troisième temps, on va résoudre certains mystères. Tout au long du film, il va avoir un genre de leitmotiv avec une fameuse casquette rouge qui, au début, cherche, on va comprendre d'où elle vient, quand est-ce qu'elle est perdue, etc. Sans être le film Le Violon Rouge à travers le temps. Puis la chanson La Mère de Charles Trenet aussi qui revient. Okay. C'est quand même drôle de voir des Japonais la chanter. Puis je pense même qu'elle chante en version comme japonaise, comme les paroles traduites et tout, ou karaoké, ou des fois, les gens font juste siffler l'air, là, une femme de chambre qui siffle l'air et tout. Fait que c'est ça. C'est un film qui est très intimiste de Koei Igarashi. C'est pas son premier film, il en a fait une couple, mais c'est du cinéma indépendant là, quand même. Je sais pas dans quel festival et tout ça a joué, là, j'ai oublié de noter ça. Mais ça me rappelait un peu Aftersun avec Paul Mescal il y a quelques années, là, sans ce côté suicide et tout, là, la relation parent-enfant, mais dans la thématique vidéo, dans la lenteur du récit, tu sais, du doux amer qu'on appelle un peu, et sur le bord de la mer, très beau là, dans ce cas-ci. Voilà, fait que c'est un peu ça. Je recommande chaudement, mais c'est pour le cinéma international plus pointu, plus niché, mais un beau vibe. Je sais pas comment dire, tu sais, une journée très chaude, il a l'air de faire chaud, ils disent chaud humide un peu dans eux. Un grain, pas seulement le grain, mais la colorisation qui est plus terne, plus pastel un peu. Des scènes de nuit, des scènes de jour, des scènes de discothèque. Le monde est comme beau dans un naturel, même quand ils vont pas bien puis qu'ils sont chaumardes, ce qui est très à propos parce qu'il devient vraiment désagréable avec son ami quand il sort en boisson. Fait que
c'est présenté en version originale sous-titrée.
Oui, exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a de la sous-titre anglais ou sous-titre français, justement, dépendamment du parc, beau bien. Fait que je recommande, si vous avez accès à ce film au courant de l'été, Super Happy Forever. Très beau film. Voilà. La semaine prochaine, le 20 juin, une couple de sorties, mais notamment 28 Years Later, donc le volet qui complète une trilogie inattendue et qui va même lancer une autre trilogie, donc ça va venir avec 5 films au bout du temps. De cette fameuse franchise de zombies britanniques. Et c'est Danny Boyle qui revient à la direction, donc réalisation, scénarisée par Alec Garland, qui lui aussi, grosse année, même s'il dit qu'il va se calmer, ne le fait pas tant que ça. Fait qu'on découvre ça la semaine prochaine et autre chose, le nouveau Pixar et d'autres films, sûrement français et autres. Contactez-nous, comme d'habitude, balado à commercial monciné.ca par courriel ou sur les réseaux sociaux. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais votre chum possède une cicatrice au tibia, demandez-lui la vraie raison.